Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Monde Conscient. Je m'appelle Borvo et je suis un expérienceur d'état modifié de la conscience, mais aussi un juriste en sécurité internationale et défense. Le but de l'émission est d'aborder l'actualité internationale sous le prisme de l'interdisciplinarité et de façon consciencielle. En effet, je suis intimement convaincu que l'humanité doit évoluer à un niveau de conscience qui englobe de plus en plus de sujets, pour atteindre celle qu'on appelle conscience planétaire. Dans cet épisode, on va analyser la situation du conflit entre Israël et la Palestine, et actuellement entre Israël et le Hamas. Mais surtout l'histoire, les enjeux et le droit international sous-jacent cette terrible situation. Le but est toujours de vous donner des clés de compréhension, des définitions, un regard. C'est dans les moments les plus sombres de l'histoire que la nécessité d'appliquer le principe de proportionnalité en droit international devient plus évidente. Car c'est à ce moment-là que la distinction entre la vengeance et la justice devient cruciale. Je vais vous donner un petit peu de contexte. On a en 2020 les accords d'Abraham entre Israël, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, auxquels vont s'ajouter le Maroc et le Soudan. Donc l'accord vise à normaliser les relations entre ces États et Israël, et normaliser, c'est-à-dire la mise en place d'une diplomatie avec des échanges culturels, commerciaux, recherche et même développement et sécurité. Du coup, à ce moment-là, pour les autorités palestiniennes, cet accord a été vu comme une trahison, parce que la position antérieure des pays arabo-musulmans, ou musulmans tout simplement, était qu'aucune relation diplomatique ne pouvait s'établir si le morcellement du territoire palestinien, avec la Cisjordanie notamment, continuait. Pour rappel, la Cisjordanie est une des deux zones contrôlées par les Palestiniens, l'autre étant Gaza. Pour rappel, c'est la SDN, donc la Société des Nations, un genre de prototype de l'ONU, qui donne mandat aux Britanniques de gérer le territoire palestinien qui autrefois était sous le giron de l'Empire Ottoman, défait lors de la Première Guerre mondiale. Et le but était donc de donner un territoire, de partager ce territoire entre la majorité arabo-musulmane et les juifs qui demandaient justement à avoir un territoire. Et ça s'est fait le 25 avril 1920 lors de la conférence de San Remo. Et ce n'est qu'en 1948, il me semble, que Israël du coup est né en tant qu'État. Et c'est là qu'on a le partage entre Gaza, la Cisjordanie et puis l'État d'Israël. Le souci, c'est qu'il y a eu des désaccords au sein des Palestiniens et au sein de la communauté arabo-musulmane, des voisins qui avaient autour. Et cela a mené à une guerre existentielle, la guerre des six jours, pour permettre justement à Israël de continuer à exister. Et elle a vaincu ainsi la coalition composée de l'Égypte, de l'Irak, de la Jordanie, du Liban et de la Syrie. Et par là même, elle a conquis plusieurs territoires, dont la Cisjordanie et Jérusalem-Est. C'est en 1993, avec les accords d'Oslo qui sont signés pour une solution à deux États, mais qui ne sera finalement qu'un échec avec des cycles de violence composés d'attentats-suicides du Hamas, de colonisation juive illégale, avec des colons armés, avec tout ce que vous pouvez imaginer comme affrontement. Je précise d'ailleurs que certaines colonies sont considérées comme légales par les autorités d'Israël et que d'autres, des colonies sauvages, sont considérées comme illégales, autant par le droit national israélien que par le droit international. Mais à ce jour, on a du coup plus de 60% du territoire de la Cisjordanie qui est sous contrôle israélien. À ce jour, on peut dire qu'on peut complètement oublier les accords d'Oslo. Hein. C'est un échec, tout simplement. C'est donc une logique d'escalade de la violence qui mène Israël à adopter des stratégies à la fois défensives et absolues, afin d'assurer la sécurité de la population. Parce que c'est un petit peu le rôle de l'État et du gouvernement que d'assurer la protection d'une population sur un territoire donné. Il y a donc une volonté de sanctuarisation du territoire israélien qui met en place des murs de séparation, des checkpoints, des bases militaires, alors même que le Hamas possède la capacité de frapper tout le territoire national israélien avec des missiles comme le Qassam, qui a une portée de 17 km, c'est plus faible, jusqu'au M302. Qui a une portée de 150 km environ, c'est-à-dire que le Hamas a la possibilité de frapper tout le territoire israélien. Donc, ce qu'on peut constater là, comme ça, c'est qu'on est dans une situation typique d'après-colonisation. La Palestine était sous mandat britannique et après la Seconde Guerre mondiale, il fut décidé de donner un territoire aux Juifs. Un partage a été réalisé, une guerre civile s'ensuit, puis la guerre des Six Jours. Entre-temps, c'est avec un certain flegme que les Britanniques se retirent de la partie. Depuis lors, on a toujours ce cycle de tensions qui mène à des violences, à de la haine, qui a vu des civils israéliens et palestiniens mourir. Et pour être précis, et d'après Unica Data and Casualties de juin 2023, recensé par l'ONU, donc c'est quand même des données statistiques qui sont assez récentes, on a depuis 2008 5924 Israéliens morts à cause de ces conflits contre 154 664 Palestiniens. Bien entendu, c'est pas une question de chiffres. Chaque mort est insupportable, quelle que soit son origine. C'est une individualité pleine de promesses et de potentialités qui quitte ce monde. Toutefois, il y a un problème de proportion tout de même. Je sais que c'est multifactoriel, mais bon, il se peut qu'en règle générale, les répliques de l'armée israélienne soient un peu aveuglées par le désir de vengeance. Et cela nous mène au Hamas, une entité proche des frères musulmans que l'on peut considérer un peu comme une, carrément même, comme une mouvance de l'extrémisme islamique et dont l'objectif est simple, éliminer l'État d'Israël. Et cela passe par le meurtre de civils comme de militaires sans distinction. Ils cochent complètement du coup les conditions pouvant les faire entrer dans la catégorie des organisations terroristes. Et c'est en 2007 d'ailleurs que le Hamas prend le contrôle de Gaza. Après des luttes entre Palestiniens, il y a, il me semble, eu 550 morts entre Palestiniens parce qu'ils n'étaient pas d'accord que le Hamas prenne le pouvoir à Gaza. Normalement, c'est l'OPL. Donc, qui était une autorité légitime palestinienne qui a renoncé à la violence, qui reconnaît l'État d'Israël et qui est un acteur crédible en fait pour pouvoir négocier, pour pouvoir discuter. Ben non, ils les ont virés de Gaza et c'est le Hamas qui a pris le pouvoir. Donc ce n'est pas la faute des Palestiniens de Gaza, hein. Ça il faut vraiment le sortir de la tête parce que je pense que les gens peut-être ne peuvent pas avoir ce recul-là. Et je le répète, il ne faut pas faire l'amalgame entre le Palestinien et le Hamas. Ce serait un manque d'intelligence, comme il ne faut pas faire l'amalgame entre les citoyens israéliens et les groupes extrémistes nationalistes qui sont au pouvoir. Et c'est là que, malheureusement, le 7 octobre, le Hamas lance une attaque coordonnée sur plusieurs sites résidentiels israéliens, des avant-postes et lieu d'une rave party. On voit se dérouler sur plusieurs heures, du coup, une opération qui mêle à la fois du terrorisme en visant des civils sans distinction et au mépris des lois internationales, et une opération militaire qui pour moi est de grande envergure, avec l'utilisation de drones, de véhicules, dans une opération qui est préparée, qui est coordonnée. Israël a été pris par surprise, et la population israélienne, meurtrie, demande vengeance, et c'est donc le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Benjamin Netanyahou, qui est réélu en 2022 par une coalition d'extrême droite, se doit de répondre avec force, car il s'agit de politique. L'homme est en effet inculpé dans plusieurs affaires de corruption et il se doit de garder une sorte d'immunité judiciaire hein, qui va avec sa position. Et pour cela, il fera tout pour soutenir les politiques de colonisation ou les politiques d'extrême droite. Concernant le recours à la force d'Israël, au niveau du droit international, il est prévu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies. D'ailleurs, il me semble le 19, donc hier, il y a eu un projet de résolution qui a été proposé par le Brésil, qui a été rejeté par le Conseil de sécurité. Il y a eu un veto des États-Unis qui suit toujours en fait sa politique de soutien inconditionnel avec Israël. Système de veto hein, qui complètement illégitime hein, pour moi. C'est vraiment un espèce de petit bonus qu'on a donné aux alliés et aux vainqueurs en fait de la Seconde Guerre mondiale quoi. Mais est-ce que c'est vraiment justifié? Franchement, non. Il faut penser à une solution pour ça. Et il y a des gens qui remettent en question le principe du veto. Déjà, c'est antidémocratique. Et puis, quand une situation où il y a des enjeux humanitaires qui sont voilà, comme celle de la Palestine ou comme dans d'autres situations dans le monde, à chaque fois qu'il y a un veto, on fait des morts, quoi. Mais l'ambassadrice des États-Unis, Linda Thomas Greenfield, Elle insiste sur le fait que ce veto, il a lieu parce qu'elle pense que les États-Unis ont un rôle à jouer sur le terrain, que les négociations de la paix vont se faire sur le terrain. Et on l'a vu avec le président Biden qui est allé directement en Israël et qui a réussi à négocier le fait de laisser entrer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Ça, c'était hier. Bien entendu, il ne me semble pas que ce soit quelque chose de gratuit. En échange, le président Biden, par exemple, demande au Congrès d'allouer en fait des fonds pour Israël et l'Ukraine. Pour lui, c'est un investissement intelligent qui assurera la paix aux Américains pour l'avenir. Moi, j'y vois plus une division parce que lors de son discours, par exemple, c'est un discours qui a lieu, il me semble, il y a 6 heures. C'est très 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 frais. Ben, il disait tout simplement que Poutine et puis le Hamas voulaient la mort des démocraties, etc. Donc on est sur un discours un petit peu idéologique. Avec la mise en place du fameux camp de la démocratie contre le camp des gens qui sont contre la démocratie. Donc ils visent la Russie et puis le Hamas et puis tout ce qui pourrait ressembler un petit peu de près ou de loin à quelque chose qui serait pas démocratique, quoi. Quand on a une vision comme ça, conscientielle, planétaire, globale, c'est plutôt cocasse ce genre de mouvement. Mais concernant la légitime défense d'ailleurs, parce que justement c'est ce que l'ambassadrice des États-Unis avait utilisé pour justifier le veto, c'est qu'il n'était pas fait mention dans la résolution qu'Israël avait droit légitimement de se protéger en fait contre l'attaque du Hamas. Et que du coup ça a justifié le veto. Ce qui ne justifie pas grand chose en réalité. Mais est-ce qu'ils ont droit de répliquer en fait? Quand on regarde l'article 51, qu'est-ce que ça dit? Ça dit « Aucune disposition de la présente charte, donc la charte des Nations Unies, ne porte atteinte aux droits naturels de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale. » Donc en gros, l'article 51 nous dit, en somme, que la légitime défense, c'est un droit naturel. Ok, et il le reconnaît comme tel. Et c'est un arrêt de la Cour internationale de justice, Nicaragua 1986, qui apporte quelques précisions sur les conditions de la mise en place de la légitime défense. Et c'est un arrêt qui avait lieu dans le cadre d'un conflit frontalier entre le Nicaragua et le Honduras qui se disputaient des îles. Ainsi, la Cour internationale de justice, il nous dit que l'exercice du droit à la légitime défense est soumis à la condition qu'il y ait une attaque armée préalable contre l'État qui revendique le droit à la légitime défense. On peut décemment penser que l'attaque du 7 octobre du Hamas est complètement illégale et que c'est une attaque armée et en plus organisée. Donc on entre dans la légitime défense, hein. Ça c'est ok. Cependant, elle précise la nécessité et la proportionnalité. Dans l'arrêt Nicaragua, on met l'accent que la légitime défense doit être nécessaire et proportionnée à l'agression subie. En gros, l'État qui se défend ne peut pas utiliser une force excessive par rapport à l'agression subie. Là, l'attaque d'Israël était nécessaire, ne serait-ce que pour essayer de protéger les zones frontalières avec Gaza et protéger la population, et par la suite, essayer de trouver les responsables de ces attaques. Il est dit aussi, dans l'arrêt Nicaragua, qu'il faut l'avis du Conseil de sécurité de l'ONU. Quand un État souhaite invoquer la légitime défense collective, il doit d'abord obtenir l'approbation du Conseil de sécurité, sauf s'il est clairement impossible d'attendre une telle approbation. Dans le cas de l'attaque du 7 octobre, Israël n'avait pas d'autre choix en fait que d'agir directement, quoi. Ils n'avaient pas le temps d'attendre l'autorisation et les forces ennemies étaient peut-être encore là. Donc il fallait agir vite. Il faut savoir aussi qu'au niveau du droit international, ça a beaucoup évolué la légitime défense pour inclure justement les attaques terroristes. Et ça, on l'a vu pour le 11 septembre avec la résolution 1373 qui indique justement que la légitime défense de l'article 51 trouve à s'appliquer et qu'il faut prévenir et réprimer le terrorisme. Et il y a eu d'autres résolutions en 2005, en 2014 et en 2017 qui viennent justement donner quelques précisions par rapport à ce thème bien précis. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu ensuite une pratique qui était la légitime défense anticipatoire, c'est-à-dire qu'on détecte en amont une activité terroriste dans un pays, est-ce qu'on on peut utiliser le principe de légitime défense pour faire une attaque préventive? Là, il y a quand même quelques débats, c'est assez paradoxal, mais il y a aussi de sacrés exemples avec les États-Unis et par exemple l'Irak. Néanmoins, là, ça n'est qu'un arrêt, celui de Nicaragua, qui vient préciser les conditions de la légitime défense. Mais c'est pas considéré comme étant du jus cogens. Alors, le jus cogens, attention, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire une norme qui va s'appliquer, qui s'impose aux autres États. Oui, parce que comment on fait pour imposer du coup à un État une norme internationale, si elle n'a pas envie? C'est ce qu'on appelle la souveraineté, et quand vous avez compris ça, vous avez compris les relations internationales. On ne peut pas obliger un État à appliquer une règle de droit parce qu'il est souverain, et sa souveraineté lui permet son indépendance, son autonomie et son pouvoir sur son territoire. S'il le veut, il peut se soumettre à des normes, mais il n'est pas obligé. Même si le principe de proportionnalité est ancré en droit international, il n'est pas forcément respecté. Et c'est dans un second temps en général, peut-être même des dizaines d'années plus tard, que des mécanismes de droit pénal international peuvent venir sanctionner les responsables, notamment de crimes de guerre. Mais on peut mentionner par exemple, dans le cas d'Israël-Palestine, des choses qui se sont déroulées, notamment l'opération Bordure Protectrice en 2014, où il y a une action militaire qui a été menée par Israël en réponse à des tirs de roquettes du Hamas, et ça avait suscité des préoccupations quant à la proportionnalité de la réponse d'Israël, parce que ça, il y a eu des pertes civiles importantes. Et moi, je me pose des questions quand même sur ce manque de proportionnalité qui est une réponse émotionnelle pour moi, alors qu'ils sont tout à fait capables de mener des actions ciblées qui feront moins de victimes en fait civiles. Et moi, je pense que c'est parce qu'ils obéissent à une sorte de logique tribale, qui est toujours ancrée dans la psyché de certains peuples du Moyen-Orient. C'est-à-dire que dans l'esprit des belligérants, ils doivent très certainement penser qu'ils sont encore, je sais pas moi, à une époque biblique où la loi du talion s'applique au mépris de l'évolution juridique et morale d'une partie de l'humanité au sein de la communauté internationale. Mais la logique tribale, je la vois comme une psyché collective que l'on trouve au début de notre histoire, où les humains s'associent autour de liens forts, de parenté, de solidarité, et on peut comparer Israël comme une grande tribu unifiée face à l'adversité. Pour eux, c'est une question de survie. Et on peut le comprendre. Si on regarde l'histoire notamment tragique et injuste des pogroms, des exterminations qui ont été subies par cette population. Une psyché tribale peut, je suppose, coexister avec une société mondialisée tournée vers l'interconnexion. Mais il se peut qu'en cas de conflit, la psyché tribale soit tournée vers des actions de représailles qui font fi des règles qui essayent d'apporter un peu plus d'humanité à la résolution de ces mêmes conflits. C'est après tout dans l'ADN d'une société tribale que d'avoir des conflits intercommunautaires. C'est la règle du jeu, celle d'une tribu à l'échelle d'une nation, d'un État. Mais comme tous les États, Israël a un système juridique avec un code pénal, un code civil, qui prévoit la justice, l'équité, la proportionnalité sur le papier. Même si de mon point de vue, nous avons plus en ce qui concerne la réponse armée, l'application d'un code d'Hammurabi. Et vous savez, c'est le plus ancien ensemble de lois qui date de moins de 1000 ans avant notre ère à peu près, et je me réfère notamment à la loi 230. Si un homme a tué l'enfant d'un autre homme, on tuera son enfant. Et là je pointe le concept de punition collective, et les frappes sur Gaza me font penser à cela. Même si les militaires israéliens préviennent à l'avance les populations d'évacuer. Mais oui, évacuer pour aller où, par contre? C'est ça le souci. La condition humanitaire de ces populations, qui ne sont pas le Hamas, vont passer un seuil d'horreur. Donc, il est important de noter qu'on a besoin d'une unité qui doit permettre de constater qu'Israéliens, comme Palestiniens, comme tout groupe humain, aspirent à la sécurité, à la prospérité, à la tranquillité et à la paix. Ça, c'est ce qu'ils veulent, les deux. Normalement, c'est ce qu'ils veulent au plus profond de leur psyché. Le problème, c'est la mise en place des actions pour avoir cela. Et souvent, c'est contre l'altérité. Ça va être contre un autre peuple, contre un ennemi qui a été présumé ennemi ou contre son voisin. Mais il faut aussi comprendre que dans la vraie vie, il y a des logiques sécuritaires, qu'il y a des logiques politiques et économiques qui font qu'on a les conflits qu'on a actuellement. À mon humble avis, et de façon très logique, il faut insister sur les négociations, sur l'ouverture de ponts humanitaires qui permettront aux civils de Gaza de pouvoir avoir accès à des soins, à de l'eau et à des abris, parce que les infrastructures vont être complètement démolies, ils le sont déjà. Donc ce sont surtout les civils qu'il faut protéger. Et ça fait d'ailleurs partie normalement de la 4e convention de Genève, hein, dont Israël est signataire. Donc Pour moi, par exemple, j'ai pas de camp précis. Le seul camp que j'ai, c'est celui des victimes, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes. C'est le seul camp qui vaille, celui des victimes. Merci de m'avoir écouté. C'était Porvo, de la chaîne Voyageurs de la Conscience et du podcast Monde Conscient.